Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Lancelot Durand. Il est membre des Républicains, ancien conseiller régional jeune de Bretagne. Il est avec nous en direct pour commenter l'actualité politique ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Alors, actualité politique, j'avais envie de commencer peut-être par quelque chose qui est aussi de la politique, l'agriculture. On en parle beaucoup en ce moment avec le salon de l'agriculture qui se tient à Paris et toujours la colère agricole dans nos campagnes. Est-ce qu'on a des avancées aujourd'hui? Est-ce que vous estimez qu'on a des avancées sur les grands dossiers agricoles ou est-ce que le malaise est toujours très profond?
Alors, il y a une loi de programmation agricole qui a été votée récemment pour justement s'intéresser aux reprises des fermes ou des agricultures, enfin des exploitations, pardon, pour que les jeunes puissent reprendre et aussi augmenter dans les lices agricoles. Après, bon, ça vient d'être voté très récemment, donc il n'y a pas encore de résultat. Mais le problème, c'est qu'on fait un pas en avant du côté de la France. Mais après, il y a le Mercosur qui arrive et c'est toujours comme ça.
Mmh.
Il y a un truc qui est avancé, enfin une avancée majeure qui est faite en France et on recule au niveau de l'Europe.
C'est l'Europe, finalement, le problème de l'agriculture française?
Je ne dirais pas ça quand même, mais le problème, c'est que l'Europe veut faire des partenariats économiques, notamment avec le Mercosur et avec tant d'autres. Sauf que le problème, c'est que ce ne sont pas les normes environnementales. Et Xavier Bertrand, quand il a dit que notre assiette n'était pas une poubelle, il a tout à fait raison. Le problème, c'est que on va avoir des produits qui sont complètement gavés aux hormones, etc., dans nos assiettes. Et pendant ce temps-là, l'agriculteur français, lui, il ne va pas s'en sortir, puisque le coût de production est beaucoup plus cher, puisqu'il y a des normes, etc., respectées qui sont très sévères. On est dans le top 1 en Europe, pardon. Donc automatiquement, c'est de la concurrence déloyale.
Mmh. Avec aussi une demande de certains syndicats agricoles, la FNSEA pour ne pas la citer, qui veulent que les normes soient assouplies, ce qui fait un petit peu hurler du côté des associations et des écologistes.
Le problème de la FNSEA, elle est dirigée par Arnaud Rousseau, c'est une défense majoritairement des grandes exploitations agricoles, ce qui ne sont pas la réalité en Bretagne. Généralement, les terres en Bretagne, c'est à peu près 100-150 hectares. Bon, les fermes d'Arnaud Rousseau, je crois qu'on est sur les 400 hectares. Enfin, c'est des exploitations totalement industrielles. Donc lui, il défend ce modèle-là avec pas de normes environnementales pour avoir une productivité. Enfin, regarder que le côté économique. Alors qu'il n'y a pas que ça, il y a le bétail et tout. Enfin, on peut pas tout miser sur l'économie quand on est agriculteur. D'ailleurs, la majorité des agriculteurs ne voient pas que le côté économique de l'agriculteur, mais surtout une passion, etc. Mmh. Et de vivre aux côtés des animaux, etc. Mais bien évidemment. Et donc, les associations écologiques, bon, des fois, vont un peu trop loin sur certains sujets. On peut pas arrêter les pesticides du jour au lendemain. Il le faut, c'est clair. Mmh. Mais quand il n'y a pas de solutions qui vont en adéquation avec ce sujet, on ne peut pas y arriver. Enfin, on va avoir une décroissance en termes de souveraineté alimentaire et on n'aura plus assez pour se nourrir. Sauf si on prend bien évidemment les produits du Mercosur qui, dans ce cas-là, vont être totalement des déchets, en fait.
Avec aussi la géopolitique qui bouge, vous me voyez venir, on va parler de Donald Trump tout à l'heure, mais justement ça nous amène aux États-Unis. Les États-Unis et justement cette nouvelle politique instaurée par Donald Trump, une espèce de politique rouleau-compresseur, avec aussi une grande agressivité par exemple sur l'économie et particulièrement sur nos produits et nos produits agricoles avec des taxations possibles. Est-ce que là aussi il va falloir faire entrer en jeu la diplomatie pour essayer, si c'est possible, finalement, de peut-être faire les États-Unis être un peu moins coercitifs avec la taxation des produits européens et particulièrement de nos produits français?
Il va falloir. Depuis qu'il est arrivé, Donald Trump voit l'économie partout. Il a dit, sur l'Ukraine, à tout moment, c'est les minerais qui vont pouvoir trouver la solution. Enfin, il voit que du fric partout. Et la diplomatie, il la met de côté. Il remet en cause tout le monde multipolaire qui est aujourd'hui, il pense encore qu'on est avec un bloc de l'Ouest, un bloc de l'Est. Le côté multilatéral, lui, il n'en veut pas. Mmh. Il le rejette. L'ONU, qui est arrivé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, lui, il rejette tout ça. Il dit qu'il faut... Bah, justement, il a quitté l'Organisation mondiale de la santé bon, il ne veut pas en entendre parler de l'ONU. Il pense que l'ONU ne sert à rien et que de toute façon, c'est que des mesures unilatérales qui vont régler le problème. Et donc, par des moyens coercitifs. Donc voilà, c'est refaire la Côte d'Azur à Gaza, je suis pas sûr que ça soit une très bonne solution. C'est acquérir le Groenland. C'est nommer le Golfe d'Amérique. Enfin, je me demande s'il n'y a pas un problème, parce qu'un jour il dit ça, le lendemain, il va nous dire totalement l'inverse.
Il y va un petit peu au bluff, il essaie de jouer le commercial finalement.
Ben, totalement, un jour il est capable de nous raconter quelque chose, et puis les relations sont bizarres. Emmanuel Macron l'autre jour le critiquait au salon de l'intelligence artificielle en disant, je sais plus ce qu'il disait exactement, mais il faisait en référence à son truc forêt, mm-hmm. Et le lendemain, deux semaines après, c'est bon, ils se serrent la main, ils font comme s'ils étaient amis à la Maison-Blanche, mais on voit bien que c'est pas sincère.
Il y a une forme d'hypocrisie finalement, peut-être de la part de l'un et de l'autre, je ne sais pas.
De l'un et de l'autre, je dirais, ils sont pas à l'aise, enfin... On voit bien, Emmanuel Macron n'est pas à l'aise sur les vidéos, etc. Donc, peut-être qu'il a un souvenir de sa poignée de main en 2017 avec lui. C'est fort possible, parce que Donald Trump est quand même une grosse brute qui, lui, veut montrer qu'il peut avoir une grosse poignée de main. On le voit déjà quand il est venu très récemment à Paris pour l'ouverture de Notre-Dame. Bon, ce mec-là pense que... encore une vision arriérée du monde, quoi.
C'est un peu le mal alpha, c'est celui qui veut dominer tout le monde, qui est un peu le maître du monde, hein, on le voit un petit peu comme ça. Et puis, il y a quand même quelques dérapages dans l'entourage de Donald Trump. On a vu quelques bras levés, on pense à celui d'Elon Musk ou de Steve Bannon plus près de nous. Est-ce que c'est inquiétant, ce côté dérive très populiste, très, très extrême-droitiste, si vous me permettez?
Oui, c'est inquiétant. Apparemment, aux États-Unis, ça n'a pas l'air de choquer. Il y a quand même une dérive des républicains au niveau aux États-Unis, où Donald Trump est beaucoup plus à droite que la famille Bush ou alors Ronald Reagan. Bon, Jed Evans a l'air d'y être moins, mais bon, tient des propos quand même sur la liberté d'expression en Europe qui sont pas tellement mieux. Mais le problème, c'est que au premier mandat de Donald Trump, il était un peu bridé. Mmh. Et il s'est senti que l'America First qu'il avait scandé n'avait pas si bien marché que ça parce qu'il avait été bridé justement par ses conseillers. Et donc il s'est dit, cette fois-ci, j'aurai le dernier mot sur tout. Donc je vais me rapprocher et avoir des bras droits qui pensent comme moi et qui seront soumis à moi. C'est le cas avec Kennedy à la santé qui, lui, totalement complotiste, anti-vax, etc. Et on voit bien que il y a pas de limite, quoi. Mmh. C'est à celui qui irait le plus loin, et c'est du grand n'importe quoi.
On voit aussi un ennemi qui se profile, enfin en tout cas on peut imaginer que Donald Trump le considère ainsi, c'est la Chine. Donald Trump a envie de s'affronter finalement commercialement à la Chine en faisant quelques alliances, on le voit sur le terrain de l'Ukraine où il préfère négocier avec Poutine plutôt que d'associer l'Europe et même le président ukrainien. C'est choquant cette attitude.
Oui, parce qu'il y a une fascination chez lui envers les dirigeants illibéraux, on va dire. Xi Jinping, Kim Jong-un, Vladimir Poutine, bon, pas encore Alexandre Loukachenko, mais Javier Milei, tous ces gens-là, il est quand même très fasciné par les grosses brutes.
Mmh. Donc, est-ce qu'on se prépare un monde de grosses brutes, finalement, pour reprendre votre expression?
J'espère pas. Je ne pense pas, mais après, tous les populistes, notamment d'extrême droite, sont pour des... Enfin, une mise à mal, en fait, du monde multilatéral. Mmh. Et donc, pense que chaque État doit se défendre son propre intérêt et ne pas forcément penser à l'autre. Enfin, c'est le principe même du nationalisme, c'est détester son voisin. Et le problème, c'est que Donald Trump aimerait bien que ça se passe comme ça en Europe. On voit dans les propos d'Elon Musk, que ce soit sur Keir Starmer ou Olaf Scholz plus récemment. Bon, maintenant, c'est Friedrich Merz qui l'a remplacé, mais... Il y a quand même une certaine volonté d'ingérence en Europe et de dire vous devez penser comme nous. Pensez qu'on est soumis, que l'Europe devrait être soumise aux États-Unis.
Avec les nouvelles technologies, vous avez prononcé le nom d'Elon Musk, on l'a vu intervenir Là, vraiment une ingérence au congrès de l'AFD, qui d'ailleurs a fait ce week-end un score assez historique, une percée assez historique dans le paysage politique allemand. Donc l'AFD, on le rappelle pour les auditeurs, hein, c'est le parti d'extrême droite allemand. Là aussi, il y a une forme d'inquiétude, parce qu'on voit quand même qu'il y a une manipulation des masses, en tout cas des populations. Est-ce que c'est inquiétant, ce côté nouvelle technologie et ingérence, oui, il n'y a pas d'autre mot.
Oui, parce que les grands PDG des réseaux sociaux ne veulent pas de limitation, ils veulent une liberté d'expression poussée à l'extrême, donc qui va même des fois dans le délit, enfin, qui n'est pas légal. Mais ces gens-là pensent qu'il faut être très ouvert sur les réseaux sociaux. Il est vrai qu'on ne peut pas non plus limiter tout et dire vous pouvez dire que ça. Je ne dis pas d'aller là, mais il y a certains propos
qui relève finalement
du pénal. On peut pas dire c'est condamnable, mais vous pouvez le dire sur les réseaux sociaux, il y a pas de souci. C'est pas comme ça que ça marche. Et puis le problème avec l'AFD, c'est que ils tiennent des positions très extrêmes, très populistes, en disant il y a plein de soucis dans notre pays, mais vous inquiétez pas. En deux temps trois mouvements, ça va être réglé avec des solutions simplistes qui ne sont même pas faisables. Et ces gens-là sont très démagogiques.
Mmh. On a même vu ici en France le Rassemblement National s'éloigner quelque peu de l'AFD, en tout cas ne pas vouloir...
Alors, s'éloigner, mais quand j'écoutais l'autre jour la session de la région Bretagne, Gilles Pénel a pris la parole en parlant qu'il attendait impatiemment une alternative de la Bretagne et une alternative pour la France. C'est quand même le slogan de l'AFD. Donc, qu'on le veuille ou non, ces gens-là tiennent quand même des positions très extrêmes, vont dans des réunions de remigration au Parlement européen. Donc tout ça, c'est bien beau de dire on est distancé, etc. Mais ces gens-là sont dans le même sac. Mmh. Ils ont peut-être pas la même forme sur la façon d'exprimer leurs idées, etc. Mais en tout cas, sur le fond, c'est les mêmes. Que ça soit pour l'AFD, le Rassemblement National, ou alors la réunion l'autre jour qu'il y a eu aux États-Unis avec un bras levé. Enfin... Jordan Bardella dit « Oui, je vais pas y aller parce qu'il y a un bras levé », mais il était quand même invité, donc c'est pas rien. Marine Le Pen était très liée avec cet homme, donc de toute façon, faut arrêter. Enfin, ils sont pas honnêtes, ils sont pas clairs, ils essayent de dire « Oui, on est social », etc. Non, c'est une extrême droite encore plus fourbe que celle de Jean-Marie Le Pen, qui était très libérale. Ils font croire aux gens qu'ils sont plus sociales pour dire « Mais regardez... la population, les classes populaires, on va s'occuper de vous, etc. » Ce qui est totalement faux. C'est juste pour gagner des voix et dire... parce qu'on le voit bien sur la réforme des retraites. Il disait, 60 ans, après 62, et pourquoi pas après 64, 65. Et voilà. On voit déjà direct que plus il s'approche de l'Élysée ou de Matignon, plus il commence à enlever le masque. On le voit d'ailleurs avec les candidats RN qu'il y a eu sur votre antenne et partout en France.
On reçoit tout le monde ici, voilà, oui, c'est important, la liberté d'expression justement dans le cadre des médias. Sur l'ingérence, j'avais envie de revenir deux secondes sur l'ingérence parce qu'on voit aussi une perte de souveraineté. Alors la souveraineté, c'était cher au général de Gaulle en son temps, que dirait-il aujourd'hui, mais on ne fera pas parler, il n'est plus là, mais il y a une perte de souveraineté. On a l'impression que ce mouvement populiste... qui appelle finalement la souveraineté des pays, en Allemagne, en France et bien ailleurs, finalement, a une forme de fascination pour les États-Unis, tenez, par exemple.
Oui, parce que les États-Unis sont à eux seuls une grande puissance militaire, économique. Donc, automatiquement, c'est un peu l'ambition de ces partis-là, faire revivre la puissance de la France, ou même d'un autre pays, mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous le permettre. On a une population vieillissante en France, c'est pas possible, on peut pas avoir... Et puis à quoi ça sert d'avoir une armée, d'être surarmée en France? Je ne pense pas que ça sert à quelque chose, parce que déjà, on n'a pas de sous. Donc déjà, dire on va mettre tant de milliards dans le militaire, c'est pas possible. On peut pas se permettre, et puis je ne pense pas que c'est très utile. Oui, il faut une armée puissante en France... Mais il ne faut pas non plus un effort de guerre. Enfin, on n'est pas rendu là.
Et puis, on a la force de dissuasion.
On est le seul pays dans l'Union européenne qui le possède, effectivement. Donc, déjà, ça nous rajoute quelques points.
Avec, justement, là encore, les États-Unis et les propos de Donald Trump autour de l'OTAN, en disant, maintenant, ça suffit. Soit vous payez, soit on ne vous protège plus, à peut-être à l'exception de l'Ukraine, parce qu'il y a les minerais, mais ça, c'est les négociations. Est-ce que, justement, il va falloir repenser aujourd'hui une armée peut-être européenne, une armée des différents pays européens? Alors, c'est difficile de faire l'unité d'une armée, mais au moins, chacun dans son savoir-faire. Est-ce qu'il va falloir aller vers cette voie-là aujourd'hui?
Il va falloir y penser. Vous m'auriez invité il y a un an, je ne vous l'aurais pas dit. Mais là, il y a quand même une vision des États-Unis de lâcher prise, de nous dire « débrouillez-vous, on en a fait assez depuis le plan Marshall, etc. Nous, maintenant, on va prendre nos distances. On a des économies à faire de notre côté. Ils veulent diviser par deux le budget de l'armée. Donc, si on n'est pas soutenu par les États-Unis, qui va nous soutenir ? Donc, oui, on va être obligé, à 27, de reprendre... une armée militaire, je ne sais pas s'il faut aller vers un commandement unique de l'armée européenne.
Une forme d'OTAN européen, finalement.
Oui, ça serait une bonne idée, je pense, parce qu'on est 27. Si on accumule toutes les sommes de chaque État pour le budget de l'armée, on est le deuxième au monde. Mmh. On dépasse la Chine et la Russie largement.
On a entendu d'ailleurs des voix en Allemagne, le futur chancelier qui vient à peine d'être élu, a appelé de ses voeux, par exemple, que l'Allemagne soit sous la protection de la force de dissuasion française.
Alors, je ne sais pas courant penser s'il faut être soumis à quelqu'un ou pas, mais la France, en tout cas s'il y a une armée européenne qui se crée, il faut que la France ait... un poids fort au sein de cette alliance, non pas parce que les autres ne sont pas légitimes, mais nous possédons la dissuasion nucléaire que les autres ne possèdent pas. Donc, on doit avoir quand même, on doit peser plus dans l'alliance.
Il y a aussi un côté historique de la France avec cette force de dissuasion.
Oui.
Justement, on est dans une recomposition aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de la montée des populismes. Vous avez évoqué la France et justement, ça nous amène à la politique française. Aujourd'hui, on a un Rassemblement national très fort en France. On a 11 millions de Français finalement qui se sont tournés vers le Rassemblement national lors des dernières élections. Comment la droite républicaine, j'allais dire la droite classique, permettez-moi le terme, vous me démentez si je dis une bêtise, mais la droite classique peut peser face aux idées du Rassemblement national, face à une extrême droitisation de la société, finalement?
Oui, parce que je pense que, sincèrement, la population n'est pas d'extrême droite. C'est totalement faux de dire ça. Mais, alors déjà, il faut prendre le compte quand même que la dissolution a été faite le soir des élections européennes. Donc, c'est pas les mêmes enjeux. Et le Front National ou le Rassemblement National ont toujours été premiers, je crois, depuis 2014. Donc, ils ont toujours fait des bons scores là-dedans. Donc automatiquement, si le lendemain vous dites vous revotez, l'échéance n'est pas assez éloignée. Donc automatiquement, ils vont faire des voix. Bon, ils ont fait 11 millions de voix, tant mieux. Je ne suis pas sûr que si aujourd'hui il y avait une dissolution, ils feront autant. Mais ce n'est pas grave. Et la droite républicaine, oui, doit reprendre le flambeau. Et en quelque sorte, faire ouvrir les yeux aux gens et leur montrer qu'ils sont, parce que le Rassemblement National aime bien dire « mais nous ne sommes plus d'extrême droite, nous sommes de droite et LR, c'est devenu un parti de centre droit ».
D'ailleurs, il y a un vœu qu'on entend dans la bouche de beaucoup de dirigeants du Rassemblement National, et même un petit peu plus loin, de reconquête, d'une union des droites. Est-ce que demain, on peut imaginer que LR se fonde dans une grande union des droites? Est-ce que c'est quelque chose que vous imaginez possible ou pas?
Non, j'en ai pas spécialement envie, mais faire une alliance avec le centre-droit, pourquoi pas, avec l'extrême droite de Reconquête et du Rassemblement National, certainement pas. Je sais que le Parti Socialiste l'a fait avec la France Insoumise et le NPA et le Parti Communiste, mais non, moi personnellement, je n'y suis pas favorable. Oui, on est en difficulté, on n'a pas beaucoup d'élus, on n'a pas beaucoup d'élus au sein de l'Assemblée Nationale, dans les autres institutions on en a. Mais c'est pas pour ça qu'il faut à tout prix faire des alliances avec des partis qui nous haïssent depuis le début pour garder des sièges de députés. Non, il faut savoir être authentique et respecter ses valeurs.
Et pourtant, au Rassemblement National, on entend beaucoup d'intervenants qui disent, qui se réclament finalement de la pensée gaulliste. Malraux, en son temps, avait dit tout le monde a été et sera gaulliste. Est-ce qu'on y est aujourd'hui? Est-ce que tout le monde est gaulliste aujourd'hui j'allais presque dire du PS à l'extrême droite?
Alors, c'est facile de dire ça, mais à la base, quand même, le Front National, c'est quand même un rejet du gaullisme. quand Jean-Marie Le Pen a fait essayer de faire évader l'auteur de l'attentat du Petit Clamart. Bon, on voit bien que ces gens-là ne sont pas gaullistes. On se rejoint sur l'idée de la souveraineté, mais il faut savoir quand même que le général de Gaulle était là à la création de l'Europe. Mmh. Le Rassemblement National rejette totalement l'Union européenne.
Avec une certaine idée de l'Europe, hein, prônée par le général de Gaulle, l'Europe des nations, et avec une France forte ou des pays forts en règle générale.
C'est ça. Après, le Rassemblement National, le Front National à l'époque, en 2017, proposait le retour du franc et quitter l'Union européenne. Bon, comme par hasard, il faudra m'expliquer qu'en 3 ans, c'est bon. Non, on veut rester dans l'Europe et on va rester avec l'euro. C'est quand même bizarre. Enfin, faudrait peut-être se poser des questions, de se dire, mais c'est louche. Comment on peut changer d'une position aussi radicale comme ça à devenir modéré sur la position et toujours traîner avec des gens qui veulent quitter l'Union européenne, être fan de Viktor Orban, etc. Enfin, je suis désolé, mais j'ai l'impression que les gens n'ouvrent pas les yeux.
Mmh. Justement, on a reproché à la droite, là encore, aux Républicains, de s'être un peu éloigné justement de la pensée du général de Gaulle, alors on va dire du gaullisme pour prendre un terme générique, et d'avoir voulu être plus social, d'être peut-être tenu un peu plus proche des idées de la gauche. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a eu vraiment un éloignement de la pensée originelle et est-ce que ça coûter finalement à LR, à la droite classique?
Je pense qu'elle c'est un peu défaite de notre parti. Je dirais que la dernière phase, c'est celle avec Éric Ciotti qui, lui, se prétend gaulliste, mais au final, pour finir, n'en a strictement rien à faire. Enfin, il n'adoptait pas des positions gaullistes, il n'en parlait pas quand il faisait un discours, il parlait à chaque fois d'immigration, insécurité. Donc déjà, il avait que ça dans la bouche. Enfin, il proposait que ça pour notre parti. Mmh. Immigration, insécurité, et les autres thèmes, on les rend minoritaires, alors que l'extrême droite parle de ces sujets pour eux qui sont majeurs. Pour nous, il y a l'agriculture. Enfin, il n'y a pas que ces deux sujets-là où on rejette la faute aux immigrés, surtout à l'Europe. Et Éric Ciotti a un peu taché notre image sur ces sujets-là. Après, oui, bien sûr, à partir du moment où Charles Pasqua, Philippe de Villiers, toute la droite plus radicale se sont dissociés du RPR à l'époque, puis de l'UMP, la branche gaulliste s'est dissociée en deux, entre ceux qui étaient pour plus d'Europe et ceux qui étaient pour moins. Donc automatiquement, aujourd'hui, le problème c'est que ces gens-là, maintenant aujourd'hui, il n'y a plus que Philippe de Villiers, ils sont partis à l'extrême droite avec des positions semi-royalistes, donc je suis pas sûr que ça soit très intéressant de rattraper cet électorat.
Il faut finalement une droite qui regarde devant et pas derrière, garder les préceptes, là encore, hein, de la pensée gaullienne, gaulliste, hein, je sais pas comment on peut dire, mais regarder devant, faire avancer les dossiers sur l'économie, sur l'agriculture, on en parlait en commençant, et il y a quand même aussi ces dossiers effectivement de la sécurité et de l'immigration. Il y a une réunion cet après-midi à Matignon avec le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux, le ministre également des Affaires étrangères. Il faut avoir un œil sur ce dossier qui met en exergue, je vais y arriver, des dissensions diplomatiques. On pense à l'Algérie aujourd'hui. Il faut avoir quand même un œil là-dessus, mais il faut dépassionner le débat, selon vous.
Je pense que c'est pas en donnant des coups de pression à l'Algérie qu'on va y arriver. Pour moi, il faut y aller en diplomatie.
On a perdu en diplomatie aujourd'hui en France. La France est On l'entend moins, la diplomatie française aujourd'hui.
Oui, Jean-Noël Barrot n'est pas un très bon ministre de l'Intérieur, autant comme il était très bon quand il était dans le gouvernement Borne, où il était en charge du numérique, c'était pas mal. Quand il est passé ministre en charge de l'Europe, ça allait, mais ministre des Affaires étrangères, il a quand même une vision très ancrée sur l'Europe, donc je suis pas sûr qu'il défende très bien les intérêts de la France. Mmh. Ils défendent surtout les intérêts de l'Europe également, ce qui n'est pas forcément top. On est loin de Jean-Yves Le Drian, qui était pourtant socialiste à la base, qui lui, quand même, savait défendre la France. Hein. C'est quand même un très grand ministre des Affaires étrangères. Mais oui, la question de l'Algérie, pour moi, ça va pas. On va pas la régler avec des coups de pression en leur disant on n'accueille plus personne, etc. Il faut rentrer dans la diplomatie et rencontrer, mais cela relève du ministre des Affaires étrangères ou du président de la République. Mmh. je soutiens Bruno Retailleau, mais Bruno Retailleau, je suis étudiant en droit, très attaché à la Constitution, etc. Donc Bruno Retailleau doit parler de la sécurité intérieure, mais il ne doit pas, lui seul, parler des relations diplomatiques avec la France. Mmh. Même si c'est la tête d'un des partis du gouvernement, il n'a aucun levier à avoir sur tout ce qui est relations diplomatiques. Ça relève de Jean-Noël Barrot ou alors du président de la République.
Il faut savoir ménager l'Algérie, mais en même temps montrer une forme de fermeté. On a parlé de ces fameux accords de 68. Est-ce qu'il faut les dénoncer, les réécrire, reposer les règles sur la table ?
Les réécrire, je pense, parce que ça ne va que dans un sens. Et puis, il y avait des laissés-passer pour des cadres ou je ne sais trop quoi dans l'accord. Bon,
qui pouvaient venir se faire soigner en France, par
voilà,
exemple.
C'est ça. Bon,
ça a été beaucoup dénoncé.
Bah, c'est normal, c'est une mesure de bon sens. Enfin, on ne peut pas dire aux gens, venez chez nous, on va vous soigner, et puis basta. Quoi. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc oui, il faut réécrire, repenser. Ça a été fait à l'époque, en 68, pour apaiser les tensions au maximum. Bon, on voit bien qu'aujourd'hui, les tensions ne se sont pas vraiment améliorées. Bon, après, la reconnaissance du Sahara occidental n'a pas amélioré les choses non plus.
C'est une erreur diplomatique de la part du président de la République, ça, d'avoir un peu provoqué l'Algérie ?
Ah, c'était une sorte de provocation, bien évidemment, mais on ne peut pas reconnaître, donner une importance au Sahara occidental en leur disant bah, « tenez, c'est à vous ». On aurait mieux fait de ne pas prendre position sur le sujet, comme ça on faisait du tort à personne, et ça aurait été mieux, là, de dire, et en plus Rachida Dati est venue l'autre jour dans le Sahara occidental, bon, après, on se pose des questions pourquoi les tensions s'enveniment, mais d'un autre côté, on fait un peu pour aussi, pour que ça ne se passe pas très bien. Donc, au bout d'un moment, il faudrait peut-être... Voilà, je ne sais pas. Et puis même, sur l'immigration, tout est à repenser, quoi. Les OQTF sont mal distribuées, elles ne sont pas exécutées. Enfin, tout est à repenser, la façon d'intégrer, d'accueillir, etc. Enfin, c'est une catastrophe, quoi.
Un mot sur la sécurité aujourd'hui. C'est aussi l'autre enjeu, l'autre grand dossier du moment.
Alors... J'aime pas trop le terme d'insécurité parce que pour moi, l'insécurité est un sentiment. Et le problème, c'est que l'insécurité, je dirais plutôt la délinquance. Parce qu'en fait, quand on parle d'insécurité, on fait un lien avec l'immigration. Voilà, faut dire les choses. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'insécurité, il n'y en a pas vraiment partout. Enfin, je suis désolé, par ici, il n'y en a pas.
C'est plutôt sur les grandes villes comme
Rennes. C'est sur les grandes villes, Rennes, Paris. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a plein, ils vivent sur les peurs. Et. Voilà, parle d'immigration, enfin, je voyais des candidats aux législatives qui parlent d'insécurité et d'immigration dans des circonscriptions, dans la deuxième circonscription des Côtes d'Armor. Ben, pardon, mais il ne me semble pas qu'il y ait beaucoup d'immigration dans les Côtes d'Armor, ni énormément d'insécurité. Faut savoir adapter ces sujets quand on se présente aux législatives par rapport à la circonscription. Il y a des sujets qu'on peut défendre à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale. Donc par ici, c'est plutôt tout ce qui est accès à la santé, déserts médicaux, agriculture, etc. Donc au bout d'un moment, il faut peut-être s'adapter au territoire.
Il nous reste une toute petite minute, presque moins, me dit mon réalisateur. J'aurais voulu vous entendre sur les municipales, c'est l'enjeu de demain. Avant la présidentielle, j'imagine que les troupes sont en ordre de marche à LR.
Alors, il y a déjà eu l'élection de Christian Niasme à Villeneuve-Saint-Georges récemment. Bon, très bien, c'est en bonne voie. Après, bien évidemment, il va falloir qu'on se prépare. Après, il y a les congrès des jeunes républicains, de la présidence des républicains. Donc, ça va y arriver, on va y arriver totalement. Ça devrait bien se passer. On espère qu'on gardera autant de mairies qu'on avait.
Voilà, c'est tout l'enjeu. Et vous viendrez évidemment nous en parler au micro de la matinale de Bretagne 5. Lancelot Durand, membre des Républicains, ancien conseiller régional jeune de Bretagne, était avec nous pour commenter l'actualité ce matin. Je vous en remercie. Je vous souhaite une belle journée.
Merci, bonne journée à tous et aux auditeurs.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.